Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à chacun. J'aimerais que nous ouvrions un premier texte dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 7, et ainsi de pouvoir prendre en considération cet enseignement et qu'il puisse faire du bien. Mais je pense qu'il n'y a pas à en douter. Chaque fois que nous ouvrions notre Bible, la parole de Dieu, c'est toujours des paroles qui nous sont nécessaires, indispensables, qui peut-être remettent notre foi à flot lorsque nous avons tendance à nous fatiguer ou à nous lasser, parfois accablés. Justement, ces paroles sont faites pour cela. Alors, écoutez bien. Donc, dans cette première lecture, 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, « Si nous marchons, nous dit l'apôtre, dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son sacrifice, son Fils, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça, c'est un fardeau. C'est un problème récurrent dans notre humanité. Alors, on connaît celui que nous avons abandonné, celui qui était notre condition d'avant notre rencontre avec Jésus, et puis il y a encore celui qui subsiste, parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes des anges, que nous sommes des saints et que nous sommes parfaits. La question est posée. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, voilà la question. J'espère que nous ne le disons pas, ou alors nous sommes dans une profonde ignorance. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors nous ne trompons pas Dieu, nous ne trompons pas les autres, mais nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, à ce moment-là, nous déclarons Dieu menteur. Nous disons qu'il est menteur. Nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Résultat, finalement, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens? Mais il y a la suite. L'apôtre dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point par orgueil, par prétention, en pensant une supériorité ou une suffisance de nous-mêmes. » C'est moi qui ajoute, vous avez compris, c'est pas marqué. Alors, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est juste. Il est lui-même pour nous, une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Le tout accompli de la croix, est là, en quelque sorte. Ça, c'est notre première lecture. Nous y reviendrons d'ici quelques instants. Une seconde, c'est elle qui va faire l'objet de plus de profondeur dans notre méditation. Alors, livre de Job. Ah oui, Job, il a beaucoup de choses à nous dire. Il a compris beaucoup de choses. Et peut-être cette compréhension qu'il nous livre, elle est bien pour nous. Elle est bonne. Il y a des souffrances. Il y a des fardeaux dans l'Église. Il y a des frères et des sœurs qui sont profondément malades. Il y en a d'autres qui traînent, des situations difficiles depuis des années et des années, qui voudraient bien s'en débarrasser. Et ce sont des choses comme les vagues, vous savez, ça revient. Il y a des marées hautes et des marées basses. Et ça nous saisit tout à nouveau. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est l'humanité, et on n'est pas les seuls, quelquefois, à crier. Vous savez, autour de nous, il y a des gens qui crient, qui hurlent, qui hurlent à la mort, hein, tellement ils sont profondément malheureux. Ça faut pas l'oublier, même si nous sommes privilégiés pour nous. Mais nous sommes privilégiés parce que nous connaissons Jésus. Et ça, ça change tout. Alors, dans Job, chapitre 33, et là, voilà, c'est un petit peu la complémentarité de notre première lecture, hein, parce qu'il est question finalement du mal, il est question du péché, il est question de ce que Jésus est un intercesseur, qu'il plaide pour nous, il est avocat, il est le consolateur aussi, hein, dans nos désespérances. Moi, j'ai relevé la prophétie qui a été donnée tout à l'heure, hein. Voilà. Eh bien, il était question d'un enfant, et il faut qu'il apprenne, et un enfant pour apprendre la vie, il va tomber, il va chuter, il va se relever, puis un jour il marchera droit, hein, parce que bon, voilà, mais quelquefois, eh bien, c'est comme ça, et il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure, parce que on peut pas se rendre malade, hein, de tout. Alors voilà, Job, chapitre 33, verset 8. « Mais tu as dit à mes oreilles, » c'est Dieu, hein, qui « Tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. » Tu as dit quoi ? Tu as dit que tu étais pur. Je suis sans péché, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, et il n'y a point en moi d'iniquité. Et cet homme qui dit les choses, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans des cèpes, il surveille tous mes mouvements. C'est ce qu'il pense, le pauvre homme. Alors voilà que Dieu répond. Je te répondrai, Dieu par Élie, naturellement, quand cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu disputer avec Dieu? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Et la suite. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Et Dieu parle encore, et il parle par la douleur. Par la douleur, l'homme aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Et voilà qu'il va y avoir un retournement de situation dans notre texte. Écoutez, ça c'est pour nous. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. Deux fois, trois fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Alors sois attentive, Job. Ça s'adresse, on est tous des Job, hein, ce matin. Ah oui. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Et si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Comment vous trouvez le texte ? Vous voulez que je le relise ? Moi, je trouve que c'est un des plus beaux textes de la Bible. C'est une formidable espérance pour les souffrants, pour les douloureux, pour ceux qui ont perdu peut-être le cap, qui cherchent, ô Jésus, ta présence, et pour marcher dans l'obscurité, alors, tiens, ma lampe allumée, vous l'avez chantée tout à l'heure, hein ? Ah oui, il y a des choses extraordinaires, et moi je voudrais que vous communiquiez à chacun quelque chose de formidable que Dieu met sur mon cœur pour vous. Ouais. Parce qu'il y a, c'est vrai, des pleurs et des larmes, il y a de la solitude, il y a mille et une questions dans nos vies. Parce que nous ne sommes que des hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous ne sommes pas abandonnés. Et vous n'êtes pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés orphelins. L'évangile de Jean nous dit qu'il nous a donné « Je vous enverrai le Consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. » C'est pas vrai ça? C'est l'évangile, hein? Et ce Consolateur, eh bien, en grec, ça se traduit par « paraclète », celui qui vient à notre secours, celui qui se porte promptement pour notre délivrance. Quelquefois, problème de l'impatience est là chez nous, hein, parce que on est impatient. Pourquoi? Parce que nous souffrons et on est fatigué de souffrir. Et ça se comprend, mais Dieu le comprend aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a là des choses qui sont formidables. Parce que je dis, tu as dit à mes oreilles, c'est Dieu qui écoute, hein. J'ai entendu le son de tes paroles. Et tu as dit quoi? Tu as pensé que tu étais pur. Tu as peut-être imaginé que, eh bien, tu étais sans péché, je suis net. Et qu'il n'y a pas de problème. Ben oui, mais, pauvre Job. Il a souffert pour apprendre tout ça, hein. À un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça? C'est moi qui paraphrase, hein, avec mon style, hein, naturellement, mais ça lui est tombé sur la tête d'un seul coup. Il a tout perdu en l'espace de quelques jours. Vous connaissez le chapitre 1er et le chapitre 2, hein? Il a perdu ses biens, il a perdu ses troupeaux parce que c'est un homme riche. Il a perdu sa dignité, c'était un roi de l'Orient, un prince de l'Orient, hein? Il a perdu ses enfants, ils sont morts, hein? Il a perdu ses serviteurs, il a perdu sa santé, il a perdu sa femme, il a tout perdu. Vous rendez compte quel dépouillement, hein? Et à la fin, notre Job dira « Nu, je suis arrivé sur la terre et nu, je repartirai finalement de cette terre. » Mais il nous est dit qu'il n'a pas prononcé une mauvaise parole contre Dieu. Formidable. Faut le faire, hein. Eh oui, mais c'est comme ça. C'est Job qui nous parle comme ça. Et puis, il en est arrivé à un moment donné à se poser des questions parce que quand la souffrance dure et perdure, on se dit « Mais il y a quand même un problème. Si c'est pas moi le problème, ben, ça doit être Dieu qui est le problème, hein, dans cette affaire. » Et voilà que Dieu est dit « Mais j'ai entendu. » Alors, ne crois pas que tu sois pur, ne crois pas que tu sois sans péché, que tu es net, etc. Et voilà qu'à un moment donné, comme s'il y avait une coupe qui déborde et qui ne peut être contenue, il dira, mais Dieu trouve contre moi certainement des motifs de me faire du mal. Parce que ça trotte, hein, dans la tête, hein. Et il me traite comme son ennemi parce que moi je l'ai toujours servi comme un ami. Il surveille tous mes mouvements au moindre geste, peut-être pour me sanctionner. Mais là où peut-être Job est en train de se tromper, c'est que Dieu n'est pas contre lui, il est avec lui. Il reste silencieux, il ne dit rien, et c'est ça le problème. Mais par contre, le véritable ennemi, c'est celui qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de Job en même temps. Vous avez deviné comment il s'appelle celui-là? Et il ne l'a pas vu. Et très souvent, nous imputons à Dieu des choses qui ne sont pas finalement imputées à Dieu. Parce qu'il y a notre chair d'abord avec toute sa fragilité. Ouais, on est très vulnérable. Puis quand on souffre, quelquefois on a du mal à identifier les choses. Et ça se comprend, hein. On ne sait plus de quoi et de qui. Et Job, ça c'était son problème. Et il en était tombé peut-être dans une revendication un petit peu mordante en disant « Mais oui, mais moi, c'est pas normal qu'il m'arrive ceci et cela. » Ouais. Eh bien, les choses qui nous arrivent et que peut-être vous êtes en train de dire et peut-être vous avez peut-être pensé de cette semaine en disant « C'est pas tout à fait normal, Seigneur. Moi, je te sers, je t'aime. Et pourtant, il semblerait que tu n'écoutes pas mes prières et que tu n'écoutes pas mes louanges. » Et pourtant, il y a des défis sur notre tête, hein. C'est vrai? C'est ce que c'est qu'un défi, hein. Eh, c'est pour nous faire tomber, hein. Regarde ton Job, là. Tu l'as béni, tu l'as enrichi. Tu parles qu'il va pas être contre toi. Tu lui as donné tout ce dont il a besoin. Tu penses. Mais alors, dit l'adversaire, tu me le laisses quelques instants entre mes mains et je vais te voir, je vais te dire qu'il va te maudire en face. Quel défi! Et c'est le défi de l'Église, c'est le défi de chacun d'entre nous pour rester fidèle envers et contre tout et attaché au Seigneur, quoi qu'il arrive. Seigneur, aide-nous, hein, qui peut être suffisant pour ces choses, ajoutera l'apôtre Paul. Car Dieu est plus grand que l'homme, hein. Vous le croyez? Oui, hein. Tu veux discuter avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Seigneur, j'aimerais bien savoir ce qui m'attend. J'aimerais bien savoir ce que tu attends de moi. J'aimerais bien savoir les raisons du pourquoi je passe par cette épreuve. Pourquoi je souffre aujourd'hui? Pourquoi hier c'était ainsi et aujourd'hui, eh bien, tout a disparu. Je ne sais plus tout ça. Alors, c'est parce que justement, eh bien, ton problème, c'est qu'il ne rend pas compte. Mais Dieu nous parlera. Et Dieu nous dira. Et nous comprendrons bientôt. Comme Jésus le dira à Pierre. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre bientôt. Mes frères et sœurs qui butaient, qui heurtaient contre quelque chose, moi je voudrais vous répondre comme Jésus a répondu à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu vas le comprendre vite et tu vas le comprendre bientôt. Et alors à ce moment-là, tout va s'éclairer pourquoi tu es passé par là. Pourquoi tu as subi cette épreuve? Pourquoi tu vis cette épreuve aujourd'hui? Parce qu'elle te servira d'abord pour toi-même et elle te servira aussi à aider plus tard les autres. Jésus a été l'homme de souffrance et de douleur, non pas pour sa souffrance et sa douleur, mais pour nous dire qu'il a vaincu la souffrance et la douleur pour nous et que nous puissions trouver un encouragement à travers ce qu'il a vécu. Il est notre modèle, non? Et pourtant, il ne rend aucun compte et tout de suite après, il nous est dit « Mais Dieu parle ». Il parle cependant ou cependant néanmoins. Toi, tu penses qu'il ne parle pas, mais moi, je voudrais te dire que cependant, Dieu parle. Il parle à travers vos souffrances. Mais quelquefois, on n'y prend pas garde parce que la souffrance est tellement aiguë, parce que nous sommes tellement troublés, nous sommes tellement bouleversés que nous n'avons peut-être pas l'écoute attentive. Et ça se comprend. Eh oui, on est des hommes. Il parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Laissez-moi vous livrer cette autre parole parce que, me semble-t-il, elle est belle et toutes les paroles de la Bible sont belles, me semble-t-il. Écoutez dans Ésaïe, Dieu dit, approchez-vous de moi et écoutez. C'est toujours une question d'écoute, hein. C'est pas de voir des miracles, c'est pas de voir des choses extraordinaires, et puis de voir là la mer qui s'ouvre, hein, et puis, comme on l'a vu, des montagnes qui se déplacent, c'est pas ça. La foi, c'est croire sans voir, et c'est d'attendre, c'est d'être suffisamment patient, et de croire envers et contre tout, et sans preuve que Dieu est avec nous et qu'il nous aide. Alors approchez-vous de moi, dit Dieu, écoutez. Parce que, dès le commencement, il nous dit, mais je n'ai pas parlé en cachette. Écoutez, hein. Ça, c'est pas caché, hein. On a essayé de détruire ce livre pendant 20 siècles, hein. Pendant 20 siècles. Je suis modeste. Mais, de le soustraire à la connaissance des hommes. Mais il est toujours là, ce livre. C'est le livre éternel de Dieu. Alors, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine des choses, Dieu nous dit, mais j'ai été là. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et si nous avons besoin d'avoir une référence, eh bien là, immuable, Jésus nous dit, mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis là, j'ai été là, dira-t-il à Israël, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Je voudrais vous convaincre d'une chose ce matin, parce que vous êtes venus pour ça, c'est que rien ne se fait en dehors de l'action du Saint-Esprit. On peut discourir, on peut faire des discours, on peut faire des sermons, on peut faire toutes sortes de choses. Je pourrais vous faire peut-être, je ne sais pas, mais quelque chose, un très bel exposé religieux. Enfin, quand je dis très beau, j'en ai jamais fait. Mais toujours est-il que c'est pas ça ce qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ce sont pas des belles paroles, ce n'est pas le meilleur orateur que vous avez besoin d'entendre. Celui qui parlerait d'une manière admirable et qui peut-être ferait danser vos âmes. Vous voyez, parce que le sentimentalisme, ça existe aussi, hein. Et on peut faire rêver les gens, hein. Non, par mon esprit. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par la force, mais par mon esprit. Et le rendez-vous que nous avons ce matin, c'est de nous mettre à l'école de Dieu qui nous dit, eh bien, par mon esprit, je fais des choses que on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas imaginer, parce que c'est moi qui suis Dieu, et Dieu est esprit. Il est le Dieu de l'Esprit. Il m'a envoyé son Esprit, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ah, quelle instruction, Seigneur, celle de Job, celle de tout m'enlever, celle de me prendre ma santé, celle de me mettre peut-être dans une situation où je ne sais plus qui je suis, je marche dans les nuages, je suis dans la ouate, vous avez compris, ça c'est l'angoisse, hein. C'est la dépression. Mais Seigneur, j'étais bien avant. J'ai perdu mon équilibre, peut-être à travers mes excès aussi, ça peut arriver, hein. Le surmenage. à travers les charges, à travers mes soucis qui m'accablent, à travers toutes sortes de choses. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas où je vais, je suis perdu, peut-être que quelqu'un peut se reconnaître ce matin. Oui, par son accablement, dans son accablement. Alors je t'instruis pour ton bien. Sachez une chose, mes frères et sœurs, hein, c'est que de toute façon, rien n'est fortuit et rien n'est gratuit. Hein. Dieu ne fait pas les choses gratuitement, il les fait parce qu'il a un but. Et vous avez remarqué, je t'instruis pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous croyez que vous avez été appelé par Dieu? Si vous me répondez oui, eh bien de toute façon, tout le reste va aller avec. Et là où il y a peut-être de la peine, de la souffrance et une épreuve, il y aura nécessairement une délivrance. Et qui vous rendra plus fort et qui vous rendra plus grand encore. Et qui augmentera notre foi. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur la voie que tu dois suivre. J'ai entendu une prière ce matin, montre-moi la voie que je dois suivre. Eh bien, soyez assurés que de toute façon, le Seigneur a une voie pour chacun et pour vous. Vous avez prié dans la louange, vous avez demandé, mais le Seigneur le sait. Vous ne le savez pas, mais le Seigneur le sait déjà. À moi de lui demander du discernement et de la perspicacité pour savoir là où je dois marcher. Il le montrera, il le dira. Et puis ce dernier verset, avant de continuer notre... C'est comme un soupir que Dieu donne à l'homme. C'est Ésaïe hein, qui parle, il est inspiré de l'Esprit de Dieu. Et c'est le soupir de Dieu. Oh, oh, si tu étais attentif. Eh oui. Si tu étais attentif, sommes-nous pas attentifs? Nous avons tellement de choses dans notre vie qui nous rendent inattentionnés, qui captent nos énergies, qui captent nos pensées, qui captent notre attention, qui sont là pour nous voler, nous ravir. Hein. Pour prendre notre temps, pour que nous nous échappions vers des solutions idéalisées, peut-être, à travers des situations où nous disons nous allons trouver un peu de repos en ceci et cela, mais c'est ce que le monde fait, hein. Excusez-moi l'expression, j'aime pas le mot, il se saoule. Le monde est en train de se saouler pour échapper à sa souffrance et à sa misère. Dans toutes sortes de substituts, dans toutes sortes d'échappatoires, dans toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ça lui donne? Ce que lui donne lorsqu'il ouvre les yeux, c'est qu'il est deux fois plus malheureux. Ce sont des soporifiques. Ce sont des anesthésiants. Ce sont tout simplement, eh bien, là, en quelque sorte, des endormeurs de conscience pour endormir notre réflexion et notre conscience. Mais Dieu veut que nous restions bien éveillés. Si tu étais attentif à ma parole. Il est dit mes commandements, mes préceptes, ma volonté bonne, ma bonne volonté. Alors, tu saurais une chose. C'est adressé à Israël, mais c'est adressé aussi à nous. Alors, il est question de deux choses qui expriment la bonne volonté de Dieu, les bons sentiments de Dieu, le désir profond de Dieu, c'est le bien-être et le bonheur. Ton bien-être et ton bonheur. Est-ce que c'est pas ça ce que nous recherchons les uns et les autres? Parce qu'autrement, on serait fou de chercher le contraire. Ou dans le désert, soit on peut chercher le contraire, c'est-à-dire notre misère et notre mort. Mais bon, je veux pas dire que ceux qui cherchent ça sont des fous, mais une chose qui est certaine, peut-être pressé par la douleur et la souffrance, on peut malheureusement arriver à là. Mais dans l'ensemble, constitués comme nous sommes, nous cherchons quand même à être heureux. À moins que nous soyons maso. Hein, mais il y en a. Hein. Mais le bonheur, hein. Personne ne va contre son bonheur. On le cherche, le bonheur. Ah, ce bonheur, il est fugace. C'est un mirage. Hein. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il existe le bonheur. Et ce bien-être, il commence par des choses essentielles, fondamentales, que le monde ne pourra jamais nous donner. C'est la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on a la paix, on a tout. C'est le plus grand des trésors. Hein. Ouais. Ça ne se vend pas la paix. Vous pouvez pas aller dans un magasin en disant « J'aimerais avoir un petit sac de paix. Donnez-moi la paix. » Oui. Mais ça se vend pas au kilo. Ça se vend même pas du tout. Ça serait une honte. Hein. La paix, c'est quelque chose d'intérieur. Et elle ne repose pas sur les faits de l'extérieur. Parce que si vous regardez autour de vous, vous avez de quoi pleurer. Hein. Il y a de quoi se lamenter sur nous-mêmes et sur les autres, surtout sur les autres, parce que quand on voit un petit peu ce que d'autres souffrent et que nous pouvons dire, eh bien finalement, je suis privilégié. Et nous sommes des privilégiés malgré tout, même si on n'est pas croyant. Hein. Ouais. Alors le bonheur, ton bien-être, serait comme un fleuve. Il y a deux images qui sont prises. Le fleuve, alors on en a un grand là, hein, ça y est, il est au maximum de sa largeur. Hein, il se perd dans l'immensité de l'océan. Et puis, le fleuve et les flots de la mer, c'est l'emblème, c'est l'image de l'abondance, figurez-vous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de restriction, c'est un Dieu d'abondance. Et c'est ce qu'il veut nous donner, naturellement. Moi, je reviens à Job, parce que on s'était arrêté sur ces silences inexpliqués de Dieu. Oui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne s'arrête pas de parler. Dieu parle beaucoup, mais c'est nous qui ne recevrons pas. Et c'est curieux parce que quelquefois, dans nos prières, nous disons « Mais Seigneur, tu ne m'as pas répondu. » Hein, si nous avions peut-être une autre version des choses et une autre conception des choses, mais le Seigneur nous parle à chaque instant, à chaque moment de notre vie, figurez-vous. Oui. Il nous parle. Seigneur, parle-moi. Seigneur est patient avec nous, hein, non? Enfin, en tous les cas, il est patient avec moi. Parce qu'il me dit, non, t'as pas encore compris. Regarde. Regarde. Considère. Vois autour de nous. Analyse, observe. Scrute. Eh oui. Ouvre tes yeux. Et ouvre surtout tes oreilles. Ah oui, mais il y a tellement de bruit dans notre vie. La vie, elle est faite de bruit. Ouais. C'est terrible, hein. Bon, on est tranquille quand même à Saint-Nazaire, hein, mais quand vous allez dans les grandes métropoles. Moi, je plains les gens qui habitent à côté des autoroutes. Hein. Jour et nuit, il y en a un hein, qui habite comme ça. Hein. C'est vrai que c'est vraiment une nuisance importante hein, à la vie des hommes, hein, le bruit. Mais le bruit, il peut être à l'intérieur, il peut être silencieux pour les autres, enfin, il ne peut pas être entendu, perceptible par les autres, mais à l'intérieur, ça fait un bruit pas possible. Moi, je plains aussi les gens qui ont des acouphènes. Vous savez ce que c'est l'acouphène? Ah, oh, d'affreux. Moi, j'ai connu un monsieur, tellement les acouphènes étaient impossibles à gérer, il s'est donné la mort. Terrible, hein? Ouais, c'est terrible. C'est pauvre homme, hein? Parce que le bruit était tellement intense à l'intérieur de lui-même, mais il y a tant de bruit. Alors, ces silences inexpliqués de Dieu, bien que Dieu nous demande d'être attentifs, il nous demande eh bien, de l'écouter, figurez-vous que tout cela contribue au salut. Il parle par sa parole. Ça, c'est la première chose. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, et de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Nous avons là, finalement, une approche de ce que Dieu fait. Alors, quand il parle pas lorsque nous sommes en pleine conscience de notre vie diurne, c'est-à-dire le jour, eh bien, il nous parle la nuit. Vous avez quelquefois des conversations avec le Seigneur, non? Oui. Quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus de bruit et tout ça. Vous savez, les souffrants, ils parlent beaucoup la nuit. Hein. Enfin, ils sont souvent éveillés, c'est ça ce que je veux dire. Et on entend des messages la nuit. Alors, il y a un temps à tout. Hein. Il y a l'alternance, naturellement, entre le jour et la nuit. Mais il parle par des songes, par des visions nocturnes. Et je voudrais quand même dire que c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'il ne faut pas escamoter. J'ai fait une étude il y a quelques années, ici à Saint-Nazaire, sur quatre volets, hein, quatre études, hein, sur les songes et les visions. Alors, si vous avez besoin de renseignements pour garder l'équilibre, écoutez-les. Parce qu'il y a des gens qui partent dans les songes, ils sont dans la lune en permanence. Hein. Maintenant, ils vont encore plus loin, c'est Mars, et puis ils vont sortir bientôt du système solaire. Mais toujours est-il qu'il faut faire attention avec ça. C'est vrai, il y a un équilibre. La Bible nous parle de songes et de visions. Mais n'allons pas marcher la tête à l'envers. Hein. Alors, il parle comme ça. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il leur donne des avertissements. Ouais, c'est pas des condamnations, c'est des mises en garde. Il peut nous susciter en nous, eh bien, toutes sortes de choses par son Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Hein. Et à ce moment-là, il confirme ses instructions, ce qui est bien pour nous. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qui devient dangereux, ce qui peut-être peut nous porter à nous nuire. Parce que, quelque part, dans cette visitation céleste nocturne, eh bien, nous pouvons recevoir du bien, mais quelquefois, excusez-moi, mais la nuit, hein, on peut aussi avoir de mauvaises intentions, je veux dire, que quelquefois notre cœur peut être troublé par nos colères du jour, par nos contrariétés, par des désirs de vengeance, par toutes sortes de choses qui quelque part, eh bien là, sont néfastes. Hein. On peut cogiter, on peut comploter, on peut se dire, ben, demain quand il fera jour, moi je vais régler mon problème, etc., etc. C'est pourquoi d'ailleurs Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, si ma mémoire est fidèle, que votre colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein? Réglez les problèmes. J'ose. Est-ce que vous êtes mis en colère hier soir, ou hier après-midi, ou hier dans la journée? Moi, hier soir, j'ai assitué, il était 11h, je voulais dormir parce que j'avais envie de dormir pour préparer le message. Enfin, pas dormir pour préparer le message, mais être bien pour vous le donner. Il faut être frais quand même, hein. Vous me trouvez en fraîcheur? Il y a eu, je ne sais pas si mon épouse l'a entendu, mais il y a eu une dispute dans l'immeuble. Ouah! Alors, il y avait visiblement, c'est un monsieur. J'espère qu'il est pas là ce matin, parce qu'il va dire, j'ai tout entendu. Mais, toujours est-il que c'était malheur. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de se disputer comme ça, hein. On se dispute pas, d'ailleurs. Malheur, les meubles, ils tapaient, ils cassaient, etc., etc. Je me suis dit, mais ils vont peut-être, la police va arriver bientôt, hein. Il y avait quelqu'un qui criait, l'autre qui écoutait. Peut-être qu'il n'y avait pas le choix de dire autre chose. Mais c'est terrible, hein, les choses comme ça. Et voyez-vous, quand on est parti comme ça pour une nuit de sommeil et qu'on est rempli de haine et tout ça, oh Seigneur, parce que le problème, il est là, hein, il met le sceau à ses instructions pour détourner l'homme du mal. Et quelquefois, un chrétien peut se coucher en colère, il peut se coucher dans une fureur, il peut se coucher avec de mauvaises intentions. Il faut que tout soit ça réglé parce que, le lendemain matin ou dans les jours qui vont venir, ça va se traduire avec des choses épouvantables et abominables. Détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, parce que le grand problème humain, c'est l'orgueil. Ça nous tue l'orgueil, et ça tuait l'humanité au départ de son origine. De le préserver de l'orgueil, de le garantir son âme de la fausse, parce que ça fait mourir, non seulement les autres, mais nous-mêmes, et de sa vie des coups de glaive. Le coup de glaive, ça imagine finalement la guerre. Eh oui, c'est terrible, je voudrais pas le dire, hein. Mais vous savez, c'est terrible cette histoire de guerre. Ça commençait avec Caïn, entre deux frères. Et comment dire une chose pareille? Elle est abominable. La guerre, elle tue, et elle tue des innocents. Et c'est une grande faucheuse, parce que c'est pas un individu, mais quelquefois ce sont des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'individus qui partent dans ces moments-là. C'est terrible. Ouais. Que le Seigneur nous garde de tout ça. Alors il parle par des songes. Il parle par la douleur. Aussi, l'homme est repris sur sa couche, sur son lit, quand une lutte continue vient agiter ses os. Seigneur, parle-moi quand je souffre. Parle-moi quand je suis en insomnie. Parle-moi quand dans ma tête ça va exploser et que ça me trouble, je suis profondément malheureux. Cette lutte continue qui va agiter ses os. Lorsque nous sommes dans un état où notre vie est en train de dépérir, jusqu'à prendre en dégoût de manger. Vous savez, quand on est dans la maladie, dans toutes sortes de choses, vous pouvez donner les plus beaux mets, enfin les meilleurs plats, ça ne dit rien. Hein. Ça ne dit rien. Même les aliments les plus esquis, nous est-il dit. Alors sa chair, puisqu'il ne mange plus, puisqu'il ne vit plus, puisque finalement, eh bien tout cela, c'est en voie de disparition. Il nous a dit, mais sa chair se consume et disparaît. Il maigrit, tout simplement. Il n'a plus de force. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. En d'autres termes, l'homme dépouillé. C'est une œuvre du mal. Cette œuvre nous fait du mal. Alors son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Voilà la condition de l'homme. Voilà la condition de Job. Moi, je pense que Job a été comme ça. Hein. Un homme qui était atteint d'une terrible maladie, on l'avait appelé un ulcère, où il se grattait avec un tesson de verre des pieds à la tête. C'était la thérapie de l'époque. Hein. Aujourd'hui, on a fait mieux, hein, peut-être. Parce que, imaginez-vous, hein, cette démangeaison, voilà. C'est terrible, pauvre Job. On peut le plaindre. Hein. Mais il est l'image, finalement, et la réponse de comment souffrir avec espérance. C'est ça l'histoire du livre de Job. Hein. Et voilà ce que maintenant je voudrais vous transmettre par rapport à avoir dit tout ça. Tout simplement, mais, ça veut dire cette petite cette conjonction de coordination fait la transition en quelque sorte. Il y a l'état de l'homme, il y a l'état de souffrance, il y a sa désespérance, il y a ce Dieu qui reste silencieux, ce Dieu vers lequel on crie et puis on n'a pas de réponse. Pourtant, nous avons entendu dire qu'il nous parle. Voilà. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ouais. Ben nous l'avons cet ange intercesseur, c'est même pas un ange, c'est même pas un archange, c'est même pas un séraphin, si vous connaissez la hiérarchie, c'est Jésus. Vous savez dans l'Ancien Testament comment Jésus est appelé, enfin il n'est pas appelé Jésus, hein. Il est appelé l'ange de l'Éternel. Et quand il se manifeste dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on appelle ça une christophanie, apparition finalement de Jésus, dans sa préexistence. Enfin, je ne veux pas trop compliquer les choses, mais ce sont des réalités qui nous sont enseignées dans la Bible. Alors s'il se trouve pour lui, il se trouve pour lui particulièrement, un ange intercesseur. Secondairement, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que l'Église... La communauté que nous formons ici, localement, eh bien, nous faisons secondairement, eh bien, un rôle d'ange intercesseur quand nous prions pour nos frères et nos sœurs. Et il y a un rendez-vous hebdomadaire, j'en profite pour rappeler. Vous connaissez le jour et l'heure, non? Non, je parle du retour de Jésus. Là, je vous réveille. Bon. Alors, je reformule la question. Vous en connaissez le jour et l'heure, et là, c'est officiel. C'est véritablement le mercredi soir à... Voilà. Dites-le au monde entier. Voilà. Et quand nous nous retrouvons dans ces réunions, nous faisons secondairement office d'ange intercesseur pour prier pour nos frères et nos sœurs. Pour prier pour ceux qui sont... dans la difficulté, dans les pleurs, dans les larmes, ceux qui sont éloignés, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui ne peuvent plus venir, pour ceux qui sont dans la détresse. Oui. Et je crois que ça, c'est important. La réunion de prière, à mon sens, est une réunion qui est aussi importante que le culte. C'est une réunion de victoire. Parce qu'on prie, on prend des victoires, et les victoires, elles sont là, puisque Jésus a vaincu, et il nous donne d'être vainqueurs avec lui. Et plus on sera nombreux, plus l'Église va grandir. Je le sais et je mets aussi j'ajoute ceci, c'est que après une journée de travail, un mercredi en milieu de semaine où nous sommes fatigués, je conçois que ce soit pas toujours facile. Il y a les enfants à la maison, il y a ceci et cela. C'est vrai. Je le sais. Et je suis prêt à excuser tout cela. Enfin, je suis pas excusé ou quoi parce que bon. Moi, je suis rien. Mais toujours est-il que quand on peut donner cette priorité, parce qu'on donne des priorités à bien d'autres choses, hein, qui ne sont pas des priorités, mais c'est un bonheur de se retrouver dans une réunion de prière. On arrive, et vous en êtes conscient, on arrive, on est fatigué, on est harassé, et souvent, le mercredi, c'est la journée où on a le plus de problèmes dans le travail. Eh bien, quand on repart, on est en pleine forme. Sans problème, mais enfin bon, il doit y avoir quelque chose qui... Et c'est vrai, parce qu'il y a une onction du Saint-Esprit, il y a quelque chose de formidable qui nous... Parce qu'on a donné, et le Seigneur va nous redonner. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné partout, surtout si vous l'êtes en pleine forme. Venez le mercredi soir, vous allez voir le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, ça va y aller. Vous allez être vraiment, eh bien, renouvelés. Donc, un ange intercesseur, d'entre 10 000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Nous sommes tous des anges intercesseurs lorsque nous rendons témoignage et que nous côtoyons la misère autour de nous et qu'on annonce, que on leur annonce la voie qu'il doit suivre avec amour. Il le regarda, il l'aima et ensuite il lui a dit, connaissez l'histoire de Jésus avec le jeune homme riche? Eh bien ça c'est la technique douce et remplie de compassion et d'amour pour nous approcher des âmes qui sont profondément touchées par la misère. Faisons comme Jésus. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le. Quand nous prions pour un frère ou une sœur ou quelqu'un de l'extérieur et que nous demandons, Seigneur, fais-lui grâce. Délivre-le, guéris-le, sauve-le. Eh bien, Dieu a compassion parce qu'il a entendu notre prière. Notre prière est entendue. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. C'est le titre finalement de ce message ce matin. Ouais, la rançon de la vie. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Hein. C'était des siècles et des siècles avant que Jésus n'arrive. Mais aujourd'hui, nous avons la connaissance de l'Ancien Testament et nous savons que cette prophétie s'est réalisée à travers Jésus à la Pâque à Golgotha. Quelqu'un a payé pour nous. Rançon, rédemption, c'est le même mot en quelque sorte. Quelqu'un est venu en disant, voilà, il est condamné, mais moi je le rachète. Et c'est ce que nous sommes les uns et les autres. Vous croyez que vous avez été rachetés? Vous croyez que Jésus est votre rançon? Qu'il vous a donné, il a donné le prix de sa vie pour que vous puissiez vivre. Il est mort pour cela. Alors j'ai trouvé une rançon. Et voilà qu'il y a une renaissance, qu'il y a là quelque chose, revivre. Pour ceux qui ont été gravement malades, pour ceux qui ont été peut-être dans les affres, et dans le labyrinthe et les couloirs de la dépression et de l'angoisse. On s'en sort toujours, mes frères et sœurs, avec le Seigneur. Moi, j'y suis passé plusieurs fois, je peux vous dire, et ce soir, je voudrais vous dire ce matin, que le Seigneur va vous en sortir, si vous le croyez. Alors, quand on a visité un peu ces sordides couloirs et ces labyrinthes, eh bien, vous savez, il y a une chose que l'on vit, et moi, je voudrais le confesser pour moi-même, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Et c'est vrai que quand on sort de ces ténèbres, quand on commence à redécouvrir que notre âme se remet en place, que Dieu est en train de remettre le désordre en ordre, que la paix revient dans notre cœur, qu'il y a comme une joie qui, comme les fleurs du printemps, hein, c'est poétique, hein, et qui là vient finalement nous apparaît, qu'est-ce qu'on est heureux de vivre, alors qu'hier je voulais mourir. Ouais. Hier je voulais plus supporter cette vie. Je voulais mourir parce que ça devenait, il y avait plus de sens, il y avait plus d'intérêt à vivre. Vivre comme ça, je le comprends, c'est difficile. Mais néanmoins, quand la main de Dieu commence à se poser sur notre vie, alors ça vient progressivement. On s'en aperçoit même pas. Puis à un moment donné, on se rend compte, mais on se dit, mais c'est formidable ce que Dieu fait. Ouais. C'est extraordinaire. Il m'a rendu la vie, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé une visibilité, je sais maintenant. Et ça, est-ce que je peux me permettre de vous dire que c'est une résurrection? Mais vous savez, je voudrais vous dire, que quand même, pour ressusciter, il faut mourir avant. Il n'y a pas de résurrection sans une mort avant. Et Dieu, tu nous fais mourir, pourquoi tu m'as fait mourir? Non pas pour ma mort, puisque nous avons dû lui dire dernièrement qu'il nous est dit que la vie de ceux qui l'aiment est précieuse aux yeux de Dieu. S'il nous a sauvés, c'est pas pour nous faire nous mourir. Mais il nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort pour après nous amener à la lumière. Et quand on voit la lumière, c'est extraordinaire. On se réjouit. Et moi, je voudrais adresser ce message à ceux qui traversent des moments difficiles de dépression. Vous ne savez plus où vous en êtes, mais le Seigneur vous lit, vous voit là où vous êtes. Et à un moment donné, ce qui apparaît comme une lumière lointaine, comme quelque chose d'infime, ça va grossir de plus en plus, et vous allez arriver à la pleine lumière. Oui, la chenille va se transformer en papillon, et vous allez prendre vos ailes. Alors, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient dans les jours de sa jeunesse. Moi, c'est comme si j'avais 25 ans aujourd'hui. On me l'a dit plusieurs fois. Hein. Vous ne croyez pas? Ouais. Mon épouse me le dit. C'est beau la vie. Il y en a un qui chantait ça, que c'est beau la vie. Il n'était pas chrétien, mais nous on chante que c'est beau la vie. Ouais. Bien que je voudrais vous dire, parce que je suis en train de vous faire des confidences, mais surtout vous ne le répétez à personne, que je ne vais pas revenir à 20 ans ou 25 ans. On est mieux aujourd'hui qu'on ne l'a été quand on était plus jeune. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, revient au jour de sa jeunesse, pas besoin de lifting et puis de toutes sortes de choses pour remettre un petit peu l'apparence, ravalement de façade et tout ce que vous voudrez. Il adresse à ce moment-là sa prière à Dieu et Dieu lui est propice. Mais Dieu a toujours été propice. Le problème, c'est que nous n'étions pas en condition pour recevoir sa grâce. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence, Seigneur. Qu'est-ce que la vie nous a chargé de toutes sortes de choses qui sont inutiles, des casseroles que nous traînons derrière nous et qui ont été un fardeau, qui ont été toutes sortes de choses. Rends-moi mon innocence, Seigneur, tous ceux qui ont été souillés, tous ceux qui ont été abusés, tous ceux qui ont été tripotés, malmenés, tous ceux qui ont été trompés. Oui, il nous rend notre innocence. La souffrance, la pensée de la souffrance sera toujours là, le souvenir. Mais il n'y aura plus de souffrance qui accompagnera finalement tout cela. Dieu enlève, il extirpe l'aiguillon. Alors il chante devant les hommes et il dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Vous savez pourquoi on chante des cantiques dans nos églises? Parce qu'on est heureux de chanter ce que Dieu a fait pour nous. Et là, on va chanter encore plus fort. Vous êtes d'accord? On va le voir, on va le vérifier tout à l'heure là. Je vous attends. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a un témoignage qui est quelquefois donné, moi je l'entends. Il y a des gens qui viennent, qui nous rejoignent, hein, et dans les conditions qu'on peut deviner naturellement. Hein, ils sont à la recherche de Dieu, ils sont à la recherche de quelque chose, d'une autre vie, d'une espérance. Et quand ils rentrent, et qu'ils entendent l'unisson, quand ils entendent les gens chanter ce que nous chantons, avec les textes, avec la musique, avec l'enthousiasme, ils sont bouleversés. C'est déjà un évangile chanté, hein, l'hymnologie chrétienne. Et ça, ça fait du bien. Combien d'hommes, de frères qui sont devenus des frères et des sœurs, combien d'hommes et de femmes, eh bien, ont été convertis déjà ou préparés à la conversion à travers les chants des cantiques. Vous vous souvenez pas des premiers cantiques qu'on a entendus? Hein? Formidable, on s'en souvient encore. Et même dans le malheur, et quelquefois lorsque nous traversons des moments difficiles, alors que nous aurions plutôt tendance à pleurer et que nous pleurons, il y a comme un chant qui monte dans notre cœur. Oui. Quelque chose de doux, quelque chose de formidable qui nous rend la vie. Et ça, c'est magnifique. Alors il chante. Il chante finalement devant les hommes. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Quel témoignage! Et ma vie s'épanouit à la lumière. Alors Dieu fait les choses deux fois, trois fois avec nous. Parce que Dieu s'y reprend. Non pas que c'est raté la première fois de son côté, mais c'est nous qui ne sommes pas toujours finalement au rendez-vous, pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer à la lumière des vivants. Et je termine, si tu n'as rien à dire. Vous avez un commentaire à faire sur le... Pas par rapport à ce que j'ai pu dire, mais par rapport à ce qui est dit dans la parole. Si tu n'as rien à dire, Élie dit finalement à Job, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Que le Seigneur ce matin nous bénisse, parce que nous avons un avocat. Parce que nous avons quelqu'un qui nous aime, qui ne nous aime pas parce que, finalement, eh bien là, nous serions au-dessus, mais qui nous aime tel que nous sommes. Malheureusement, avec nos peines et nos péchés, mais d'un autre côté, de toute façon, eh bien, la rançon a été donnée, et tout a été fait pour que nous puissions vraiment, encore une fois de plus, eh bien, rencontrer le Seigneur et être renouvelé, tout ça, ça nous fait avancer dans la vie spirituelle. Je voudrais, en terminant, prier pour mes frères et mes sœurs qui sont malades ce matin. Priez pour tous ceux qui sont peut-être dans une désespérance. Vous avez pleuré cette semaine, vous avez crié à Dieu. Moi, je voudrais vous dire que Dieu vous a entendu. Et que Dieu va vous bénir en ce moment. Saisissez par la foi la grâce qui va passer, la grâce qui passe, parce qu'elle passe, cette grâce. Elle a été donnée. S'il y a un message, il y a l'action derrière de l'Esprit de Dieu. Le message n'est pas venu tout seul. Il vous prépare, et maintenant, remerciez le Seigneur et bénissez-le. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que le Seigneur va faire. Alors on se recueille quelques instants. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Elle est puissante. Elle est agissante. Parce que est le père de grandes choses dans celui qui s'attend à toi. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce dont nous avons parlé ce matin. Je te demande de passer dans les rangs. Je ne connais pas tout le monde, Seigneur, mais toi, tu connais chacun et chacune. Toi, tu entends les cris, les soupirs. Eh bien, nous voulons te demander, Seigneur, qu'auprès de l'un et de l'autre, qu'ils soient jeunes, ou moins, ou peut-être âgés, Seigneur, maintenant, je crois que, dans le lieu dans lequel nous nous trouvons, comme dans une chambre haute à la Pentecôte, eh bien, Seigneur, tu fais passer ton esprit. Tu répands ton esprit. Et moi, je te le demande personnellement, je voudrais tellement voir mes frères et mes sœurs qui souffrent, ne plus souffrir. Je te demande, Seigneur, que ceux qui pleurent, qui sont dans les larmes, eh bien que leurs larmes se changent en cris d'allégresse et en joie, Seigneur. Je te demande pour celui qui est dans la prison, Seigneur, de la dépression, de l'angoisse, de la détresse, eh bien, Seigneur, que toi-même, tu le délies de ses chaînes et de ses liens au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit mauvais, méchant, d'accablement, de pensée de mort, de suicide, disparaisse. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons maintenant. Je te demande que pour celui qui est en solitude, qui se meurt en solitude, eh bien visite-les, Seigneur. Et avant de lui donner, Seigneur, ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, remplis son cœur de ta présence, afin qu'elle puisse ou qu'il puisse se réjouir que, eh bien, elle n'est pas ou il n'est pas tout seul. Tu es là, Jésus. Oui, Seigneur, tu te révèles et tu te manifestes dans tous les problèmes de notre vie. Seigneur, je me livre entre tes mains. Je te remets mon corps, je te remets mon âme, je te remets mon cœur et je te remets mon esprit, Seigneur, pour que ton esprit véritablement me couvre et me recouvre. Seigneur, je te bénis de ce que tu fais une œuvre merveilleuse et de ce que demain, eh bien, en effet, ses frères et ses sœurs pourront véritablement être à la lumière des vivants et chanter devant les hommes tout ce que Dieu a fait pour lui ou pour elle. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.